Monsieur de Clémangise arrivait de Versailles et se proposait d'aller chez Ernestine quand le laquais de Mademoiselle Duménil lui remit ce billet. Il obéit sans hésiter et parut bientôt devant Henriette avec cette noble assurance que donne la certitude de n'avoir jamais enfreint les lois de l'honneur. En entrant, il parut surpris de la voir seule. Ernestine venait de passer dans un cabinet d'où elle pouvait l'entendre. Pour la première fois, éprouvant à l'approche du marquis une émotion où le plaisir ne se mêlait pas, elle craignit sa présence et sentit le désir de lui cacher les mouvements de son cœur. En jetant les yeux sur M. de Clémangis, Mademoiselle Duménil devint plus indulgente encore pour la tendre faiblesse de son amie. Comment une figure si charmante n'aurait-elle pas fait la plus vive impression sur une personne si jeune, si peu en garde contre les passions, si accoutumée à suivre les seules inspirations de son cœur? Henriette admira le marquis et souhaita qu'un heureux naturel répondît à cet aimable extérieur. « Me pardonnerez-vous, monsieur, lui dit-elle, d'entrer malgré vous dans votre confidence, de chercher à pénétrer vos secrets, d'oser vous demander compte d'une conduite dont l'apparente irrégularité est sans doute autorisée par le motif caché de vos démarches. Refuserez-vous de m'instruire de vos desseins sur Ernestine ?»« En vérité, mademoiselle, je n'en ai point, dit le marquis, et vous ne sauriez croire combien vous m'embarrassez par une question que je me suis faite mille fois, sans pouvoir me donner à moi-même une réponse satisfaisante. Je désire la tranquillité, le bonheur d'Ernestine. Je me suis occupé des moyens de la rendre heureuse, mon cœur s'est avoué ses intentions, je ne m'en connais point d'autre. Oserais-je à mon tour vous demander, mademoiselle, ce qui vous paraît irrégulier dans mes démarches et pourquoi vous semblez blâmer ma conduite ? Je suis fâchée, monsieur, vraiment fâchée, reprit Henriette, que vous puissiez vous croire à l'abri du reproche en exposant la réputation d'une jeune personne dont la sagesse est l'unique bien. Aviez-vous le droit de la soustraire à ma vue, de la priver de mes conseils, de l'engager à quitter un état simple mais paisible pour lui faire goûter les douceurs d'une opulence passagère, l'accoutumer à en jouir et peut-être la conduire à se les assurer par le sacrifice de l'honnêteté de ses mœurs? Et quoi, monsieur, vous ne vous reprochez rien quand vous vous êtes plu à lui inspirer une passion qui la met dans la cruelle nécessité d'être coupable ou malheureuse ? Ce dernier reproche me touche, reprit le marquis. Je le mérite, je me le fais souvent à moi-même. Dans la position d'Ernestine, dans la mienne, je ne devais ni nourrir mon penchant, ni exciter en elle une passion qui ne pouvait devenir heureuse sans que l'un de nous ne fît à l'autre un trop grand sacrifice. Mais ai-je tenté de la séduire? L'ai-je trompée par d'éblouissantes promesses? Lui ai-je donné de fausses espérances? Ai-je abusé de sa crédulité? Enfin, ai-je échauffé son cœur par des discours passionnés? Me suis-je seulement permis l'aveu de mes sentiments? Content du plaisir d'aimer, charmé de la douceur de plaire, je jouissais d'un bonheur inconnu, peut-être au commun des hommes. Ernestine le partageait. « Ah, mademoiselle, de quel bien vous nous privez tous deux par le fatal éclaircissement que vous venez de lui donner ?» Mademoiselle Duménil, un peu embarrassée de cette espèce de reproche, ne voulut pas laisser penser à M. de Clémangis qu'un zèle officieux ou indiscret l'eût engagé à pénétrer le fond d'une intrigue où il était intéressé. Elle lui apprit la rencontre qu'elle avait faite la veille et ne cacha rien de ce qui venait de se passer entre Ernestine et elle. « Je consens à vous laisser connaître tous mes secrets, mademoiselle, reprit le marquis. Je ne conteste pas vos droits sur une jeune personne dont vous avez pris soin pendant plusieurs années. En la retirant d'un état au-dessous de la médiocrité, j'ai voulu faire pour la beauté modeste et sans appui ce que mes pareils font tous les jours en faveur de la bassesse, du vice et de l'impudence. Votre amie ne jouit point d'une opulence passagère. Elle est riche, libre et indépendante. Ayant joué tout l'hiver d'un bonheur constant, tenté la fortune sans pouvoir la lasser, avant de partir pour l'Italie, je me trouvais une somme considérable dont rien ne m'empêchait de disposer. Je la destinais à changer le sort de l'aimable élève de votre frère. Mon dessein était de vous la remettre, mais votre départ me força à prendre d'autres mesures. Dirigée par Madame Duménil, je déposai une partie de la fortune d'Ernestine chez l'homme public où vous-même, mademoiselle, aviez placé ses premiers fonds. La terre qu'elle habitait lui appartient. Elle est acquise sous son nom et par les soins de cet honnête homme. Si j'ai caché les miens à votre jeune ami, c'est par un sentiment dont vous ne pouvez me blâmer. Vous savez tout à présent. Jugez-moi, mademoiselle, et daignez me dire si le mystère de ma conduite vous paraît criminel, si j'ai mérité qu'Ernestine me demande, êtes-vous un homme perfide ? Henriette rêva un moment. La noble franchise de M. de Clémangis, sa générosité, un amour si tendre, si désintéressé, lui paraissait un sentiment nouveau. Le grand monde où elle vivait depuis son enfance ne lui en avait jamais donné l'idée. Elle commençait à regarder l'ami d'Ernestine avec une sorte de vénération. Mais cherchant encore à s'assurer si elle ne se trompait point, « Consentiriez-vous, monsieur, lui dit-elle, à laisser jouir Ernestine de vos bienfaits dans le couvent où j'ai dessein de la conduire ce soir ?»« Ah, qu'elle en jouisse partout où ils la rendront heureuse !» s'écria M. de Clémangis. « L'ai-je obligée pour la contraindre ? Non, mademoiselle, non. Je vous le répète, elle est libre, elle est indépendante, et je me mépriserai si j'osais me croire des droits sur elle. » Mademoiselle Duménil se leva avec vivacité, courut dans son cabinet, prit Ernestine par la main et la conduisant auprès de M. de Clémangis. « Remerciez votre aimable, votre généreux protecteur, lui dit-elle. Vous ne devez pas rougir de ses bienfaits, vous n'en avez rien à craindre. Peut-être n'étiez-vous pas né pour en accepter, mais les dons de l'amitié n'avilissent jamais. Par une reconnaissance vive et constante, méritez l'ami que votre ressort vous donne. » Ernestine avait tout entendu. Pénétrée d'un tendre sentiment qu'elle n'osait faire éclater, ses larmes furent assez longtemps la seule expression de son cœur. « Mademoiselle Duménil prévient de peu de jours, lui dit le marquis, une proposition que je m'apprêtais à vous faire. Les plaintes continuelles de Madame Duménil, son obstination à vouloir vous répandre dans le monde, allaient me forcer à vous prier de la quitter. Votre ami m'épargne une explication dont je me sentais embarrassée. Je redoutais l'instant où je vous parlerai, et plus encore les suites d'un éclaircissement que je balançais à vous donner. « Mais pourquoi pleurez-vous ? » lui demanda-t-il d'un ton tendre. « Auriez-vous de la répugnance pour l'asile qu'on vous propose ?»« Eh, monsieur, dit Ernestine, pourrais-je ne pas aimer l'asile que vous me choisissez ? Je suivrai les conseils de mademoiselle, je me soumettrai aux lois que vous daignerez m'imposer. Elles feront à jamais la règle de ma vie. » Vous imposez des lois, moi, ma chère Ernestine, s'écria le marquis. Quel langage ! Puis-je l'entendre sans douleur ? Et s'adressant à Henriette, je vous en prie, mademoiselle, lui dit-il d'un air touché, triste même. Et je vous en prie, engagez votre ami à me traiter avec plus de bonté. Ernestine lui tendit la main, voulut parler, mais la crainte de voir le marquis pour la dernière fois serrait son cœur et liait sa langue. Quelques mots, coupés par des soupirs, découvrirent sa pensée à M. de Clémangis. Il en fut ému, attendri. Il prit sa main, la pressa doucement, la baisa. « Nous ne nous séparons point, lui disait-il. Je vous visiterai souvent, vous me serez toujours chère, vous m'occuperez sans cesse. Levez ces yeux charmants sur deux personnes dont vous êtes si véritablement aimées. Accordez-moi la douceur de m'applaudir à ceux de votre ami, de n'avoir rien permis à mes désirs qui vous obligent à les baisser devant elle. » Mademoiselle Duménil se joignit au marquis pour consoler Ernestine. Ils prirent de concert toutes les mesures capables de rendre la nouvelle situation de cette aimable fille aussi agréable que paisible. Elle-même choisit l'abbaye de Montmartre et demanda à s'y retirer. Le marquis se chargea de lui envoyer à l'instant sa femme de chambre, le seul domestique qu'elle voulait garder, et la débarrassa du soin d'avertir Madame Duménil d'une si brusque séparation. À sa prière, Henriette consentit à recevoir chez elle les effets les plus précieux d'Ernestine, d'où on les transporterait ensuite à l'abbaye. Elle accepta la régie des biens de son ami et l'offre que lui fit le marquis d'en remettre les titres entre ses mains. En se prêtant à ces arrangements, qui allait lui ravir la liberté de voir Ernestine à tous les moments du jour, M. de Clémangis s'efforçait de paraître tranquille. Mais, peu accoutumé à déguiser les mouvements de son âme, ses regards découvraient le trouble et l'agitation d'une passion inquiète. Il prit les mains d'Ernestine, et la regardant avec une tendresse inexprimable. « Oh, ma charmante amie, lui dit-il, n'oubliez jamais un homme qui a pu passer tant d'heures auprès de vous et réprimer une ardeur dont l'objet et la vivacité lui offraient une excuse si naturelle. Je vous aime. Vous l'ignoriez, il m'est doux de vous le dire, de vous le répéter. Oui, je vous aime, je vous adore. Combien il m'en a coûté pour vous le taire si longtemps. Je m'applaudis de vous avoir respecté. Plus mes désirs étaient grands, plus l'innocence et la sensibilité de votre cœur me présentaient l'idée flatteuse d'un triomphe assuré, plus la victoire que j'ai remportée sur moi-même est satisfaisante. Si vous croyez devoir quelque retour à m'attendre, à ma solide amitié, accordez-moi la récompense d'un effort si difficile, d'une retenue si constante. Cessez de vous affliger, dissipez cette tristesse cruelle où vous vous livrez, que je n'en aperçoive plus de traces dans ces yeux chéris. Ah, vous le savez, tout mon bonheur dépend d'être sûr de celui d'Ernestine. » Sans attendre sa réponse, le marquis prit alors congé de Mademoiselle Duménil. Il sortait quand, revenant à elle, il lui demanda d'un ton timide s'il lui serait permis de la revoir. Henriette, douce, sensible, vertueuse sans rudesse, dédaignait une sévérité, souvent affectée, toujours rebutante, propre à rendre la sagesse plus incommode que respectable. Elle ne croyait pas devoir priver le marquis de la vue d'Ernestine. Elle lui répondit d'un air riant qu'elle recevrait ses visites avec plaisir. Obligée de descendre à l'heure du dîner, Henriette ne contraignit point Ernestine à paraître chez sa cousine. Quand elle remonta, on lui dit que son amie n'avait pu se forcer à rien prendre. Elle la vit abattue, baignée de larmes, la tête baissée sur son sein, son visage à demi caché sous un mouchoir inondé de ses pleurs. « Et d'où naît ce redoublement de douleur ? » s'écria Henriette. « Quel sujet, quelle réflexion vous arrache ces larmes amères ?»« Je ne sais, répondit-elle, j'ignore pourquoi mon âme est si cruellement oppressée. Je ne sentais point de désir, je ne concevais pas d'espérance, ma félicité me paraissait le bonheur suprême. Elle remplissait tout mon cœur, elle ne me permettait pas de former des vœux. Jamais je n'entrevis dans l'avenir un bien au-dessus de celui dont je jouissais, et cependant, ma chère Henriette, il me semble que j'ai fait une perte immense. On vient de me ravir, de m'enlever. Quoi ? Pas même des souhaits. Ah, quelle triste lumière les paroles du marquis ont porté dans mon esprit. La position d'Ernestine, la mienne, ne nous permettent point d'être heureux si l'un de nous ne fait à l'autre un trop grand sacrifice. » Elle s'arrêta, soupira, détourna les yeux dans la crainte de rencontrer ceux d'Henriette. « Cher Clémangis, dit-elle, tu ne feras point un trop grand sacrifice pour rendre Ernestine heureuse. Elle ne l'exige pas. Elle ne désire point un bonheur qui porterait atteinte à ta gloire. Mes yeux sont ouverts, je vois tout ce qui nous sépare. Mais comment? Mais d'où vient? Éprouve-t-on une douleur si vive en renonçant à un espoir qu'on n'avait pas? » Les caresses de Mademoiselle Duménil, les visites du marquis, le temps, la raison, dissipèrent un peu le chagrin d'Ernestine. Mais une douce mélancolie devint son humeur habituelle. Après un mois de séjour chez Henriette, elle entra dans le couvent. On lui avait préparé un appartement commode et agréable, elle y découvrit partout les soins de son amant. Une petite bibliothèque composée de livres choisis par le marquis lui offrit un amusement utile et la facilité d'acquérir des connaissances. Elle continua de prendre des leçons de musique, s'occupa de la lecture et ne négligea point un talent devenu précieux pour elle par le plaisir qu'il lui donnait de multiplier l'image de M. de Clémangis. Des traits si chéris se trouvaient retracés dans tous les sujets qui se présentaient à son imagination, et son cabinet se remplissait des portraits de son amant. Mademoiselle Duménil la visitait souvent. Le marquis l'accompagnait quelquefois, mais il se permettait rarement d'aller seul à l'abbaye. Depuis l'instant où il s'était déterminé à remettre Ernestine sous la conduite d'Henriette, il s'attachait à combattre sa passion. Dans ses principes, il ne pouvait la rendre heureuse sans risquer le renversement de sa fortune, manquer aux égards dus à son oncle, même à une grande famille dont il lui ménageait l'alliance. On examinait alors l'affaire ancienne et importante d'où ses espérances dépendaient. Le jugement en était encore incertain. Si M. de Clémangis perdait à la fois son procès et la faveur de son oncle, réduit à un revenu médiocre, forcé de quitter le service, d'abandonner la cour, de vivre loin du monde, savait-il si ses désirs, affaiblis par la possession, ne s'éteindraient pas, si la constance de ses sentiments rendrait les plaisirs durables, si les douceurs de son mariage effaceraient le souvenir amer de tant de sacrifices faits à l'amour? Qui l'assurait de penser longtemps comme il pensait alors? Peut-être un jour, injuste dans ses regrets, cesserait-il d'aimer l'innocente cause de sa ruine. Peut-être oserait-il l'accuser de sa propre imprudence, rejeter sur elle l'amertume de ses chagrins, la rendre malheureuse et lui ravir jamais cette paix, ce bonheur que lui-même s'était plu à lui assurer. Ces réflexions l'affermissaient dans la résolution de résister à son amour, de ne plus se permettre des chagrins qu'il entretenait. Il essayait ses forces, se faisait une violence extrême pour laisser passer plusieurs jours sans voir Ernestine, sans lui écrire. Mais se reprochant bientôt cette apparente négligence, il courait la chercher, s'enivrait du plaisir de la regarder, et lui trouvant d'un air triste, abattu, il s'accusait de cruauté, se demandait comment il avait pu l'affliger, et le verrait en mouvement de douleur dans cette âme sensible. La tendre fille n'osait se plaindre de lui. Devenue timide, elle rougissait de son trouble et s'efforçait de le cacher. Mais ses regards languissants, ses soupirs, ses questions inquiètes découvraient la crainte de n'être plus aimée. Perdant de vue tous ses projets, le marquis s'occupait uniquement du soin de la rassurer. Il s'abandonnait à la douceur de lui parler de ses sentiments et, lui rappelant ses temps où, libre de s'entretenir, ils passaient ensemble des heures si délicieuses, il semblait lui reprocher d'avoir cherché des lumières inutiles à son bonheur. « Ah, pourquoi, lui disait-il, avez-vous appris à me craindre, à vous défier de vous-même ?» Touchée de ses discours, attendrie de ses propres idées, Ernestine se taisait, pleurait et regrettait peut-être sa première simplicité. 3 mois s'écoulèrent sans apporter aucun changement dans sa situation. Au retour du printemps, le marquis se disposa à la quitter pour se rendre à son régiment. L'un et l'autre sentirent vivement l'approche de cette séparation. Leurs adieux furent longs et tendres, ils pleurèrent tous deux. Et loin de s'exhorter mutuellement à s'aimer moins, ils se répétèrent 1000 fois qu'ils s'aimeraient toujours. Peu de temps après le départ de M. de Clémangis, Ernestine éprouva de l'ennui dans sa retraite. Elle désira d'aller à la campagne, de revoir, d'habiter cette agréable demeure, présent de son amant, préparé, embelli par ses soins. Henriette lui représentait qu'elle ne devait pas y vivre seule. Cette difficulté chagrinait Ernestine, le hasard la leva, un événement où son bon cœur l'intéressa lui fit trouver une compagne. Madame de Rancy, âgée de 36 ans, belle encore, aimable et malheureuse, retirée depuis 3 ans à l'abbaye, s'était attachée à montrer de la complaisance et de l'amitié à la jeune Ernestine. Veuve et réduite à la plus grande médiocrité par des accidents fâcheux, il lui restait seulement une petite rente sur un particulier. Cet homme, manquant de bonheur ou de conduite, dérangea ses affaires. Pressé par ses créanciers, il prit la fuite, passa en Hollande et livra Madame de Rancy à toutes les horreurs de l'extrême pauvreté. Ernestine, élevée, soutenue, enrichie par la tendre compassion de ses amis, se plaisait à répandre sa libéralité sur tous ceux qui lui offraient l'image de son premier état. Son cœur, toujours ouvert aux cris de l'indigent, cherchait à rendre à l'humanité les secours qu'elle-même en avait reçus. Pénétrée du malheur de Madame de Rancy, elle prit des mesures avec Mademoiselle Duménil pour faire passer sur la tête de cette femme désolée le petit héritage de Madame Dufrénoy, et ce qu'elle y ajouta remplaça sa perte et même étendit un peu son revenu. La reconnaissance se joignant à l'amitié dans le cœur d'une femme honnête et sensible, elle sentit bientôt pour Ernestine les sentiments d'une tendre mère, reçut avec joie la proposition de s'attacher à son sort, de vivre toujours avec elle et de l'accompagner dans sa terre, où elles se rendirent 1 mois après le départ de M. de Clémangis. Ernestine revit avec transport ces lieux chers à son cœur. Elle ne cachait point à madame de Rancy la cause du plaisir qu'elle sentait de les habiter. Elle lui montrait les lettres du marquis, ses réponses, l'entretenait de ses sentiments pour cet homme aimable, lui parlait de ses obligations, de sa reconnaissance, de sa tendresse, de la douceur qu'elle éprouvait en pensant à lui. Et quand son amie lui demandait où devait la conduire un amour si vif, quand elle l'interrogeait sur ses espérances, des soupirs, des larmes interrompaient les effusions de son cœur, elle avouait qu'elle n'en avait point. Sans rejeter les conseils prudents de madame de Rancy, sans se révolter contre ses réflexions, elle l'écoutait, convenait de la justesse de ses observations et lui laissait voir qu'elle ne la persuadait point. Rien ne pouvait l'engager à oublier le marquis, à renoncer au plaisir de l'aimer, à la certitude de lui plaire. Vers la fin de l'été, mademoiselle Duménil, prête à retourner en Bretagne, voulut, avant de partir, passer quelques jours chez Ernestine. En la quittant, elle lui recommanda de ne pas attendre M. de Clémangis dans cette belle solitude et ne l'y laissa qu'après avoir obtenu d'elle une promesse de rentrer bientôt au couvent. Cette parole, donnée à mademoiselle Duménil, embarrassa bientôt l'aimable et tendre Ernestine. Le marquis allait revenir. Il la conjurait de rester chez elle, de passer l'automne à la campagne, de lui permettre de la revoir encore, dont elle ne devait pas craindre qu'il abusât. La présence de madame de Rancy suffisait, disait-il, pour la rassurer contre de malignes observations. La même prière se renouvelait dans toutes ses lettres, il la pressait avec ardeur, il semblait que tout son bonheur dépendît d'obtenir d'elle cette grâce. La faible Ernestine ne put se défendre de lui accorder une faveur si vivement demandée. « Je lui dois tout, disait-elle à madame de Rancy. Ne ferais-je rien pour lui ? En résistant à ses désirs, je m'accuse d'ingratitude. Est-ce à moi de l'affliger ? Ah, dans tout ce que l'honneur ne me défend pas, pourquoi ne céderais-je point à ses volontés ? Pourquoi sacrifierais-je à la crainte d'être injustement soupçonnée la douceur véritable de lui causer de la joie ? Vous me soutiendrez contre moi-même, vous daignerez remplir à mon égard les devoirs d'une mère tendre et vigilante, vous ne me quitterez point. Témoin de ma conduite, vous me justifierez auprès d'Henriette. Et que m'importe le reste du monde ? L'estime de mes amis, la mienne, suffisent à ma tranquillité. » Madame de Rancy combattit en vain une résolution déterminée et M. de Clémangis eut le plaisir de retrouver Ernestine à la campagne et de s'assurer qu'il devait sa complaisance à l'amour. Il en jouit pendant plusieurs jours sans paraître porter ses idées au-delà du bonheur qu'il s'était promis. Mais un amour avoué peut-il se contenir dans les bornes étroites que l'amitié prescrit ? Un désir satisfait élève un désir plus ardent encore, les souhaits se multiplient, les vœux s'étendent, une grâce reçue ouvre le cœur à l'espérance d'une grâce plus grande. L'espace immense qui semblait éloigner un point à peine aperçu disparaît insensiblement et la pensée se fixe sur l'objet qu'on n'osait même entrevoir. Libre de prolonger ses visites, de passer une partie du jour auprès d'Ernestine, le marquis de Clémangis montra de l'humeur. La présence continuelle de madame de Rancy le gênait et son attention à ne pas quitter sa jeune amie la rendait insupportable à ses yeux. « Fallait-il accoutumer cette femme à vous suivre avec tant d'affectation, disait-il à Ernestine, à ne jamais vous perdre de vue ? Exigez-vous d'elle cette importune assiduité ? Me craignez-vous ? Avez-vous cessé de m'estimer ? Quoi, des précautions contre moi ? Est-ce vous, est-ce Ernestine qui me laisse voir une défiance injurieuse ? Que de froideur, de réserve ! Non, votre amitié n'est plus aussi tendre. » Ah, qu'est devenu ce temps, cet heureux temps, où, dans ces mêmes lieux, vous accouriez au-devant de mes pas avec une joie si vive, où votre bras s'appuyait sur le mien, où nous parcourions ensemble toutes les routes de ce bois où vous vous plaisiez tant. Oh, ma chère amie, il est donc vrai que vous êtes changée ? Ces reproches touchaient Ernestine, pénétraient son cœur, lui arrachaient des larmes et jamais la plus légère plainte. Elle supportait la triste uniformité de ses entretiens avec une patiente indulgence. Les chagrins du marquis, sa pâleur, son abattement, élevaient des craintes dans son âme. Elle tremblait pour des jours si précieux. « Je ne vous importunerai bientôt plus, » lui disait-il, les yeux baignés de pleurs. Elle commença à se repentir d'une complaisance dont elle n'avait point prévu les suites. « Mon imprudence vient d'irriter une passion si longtemps réprimée, » répétait-elle à Madame de Rancy. « Je n'en connaissais encore que les douceurs, j'en éprouve à présent toutes les amertumes. » Cette femme, alarmée du danger de sa jeune amie, la pressait de retourner à Montmartre. Ernestine y consentit, mais avant de partir, elle écrivit à M. de Clémangis et lui envoya sa lettre par un exprès, à l'instant même où elle rentrait au couvent. Il ouvrit avec empressement, et sa surprise fut extrême d'y trouver ces paroles. Lettre d'Ernestine. « Quelle douleur pour moi, monsieur, d'exciter vos plaintes, de m'accuser de toutes vos peines, de me reprocher l'état affreux où vous êtes. Et quoi, c'est donc moi qui vous afflige? Puis-je le croire, puis-je m'en assurer, quand votre bonheur est l'objet, l'unique objet de tous les vœux de mon cœur? Hélas, par quelle fatalité ce bonheur semble-t-il dépendre aujourd'hui de l'égarement d'une fille que vous respectiez autrefois? Soyez juge dans votre propre cause, dans la sienne, et prononcez entre votre cœur et le mien. Ma réserve vous blesse? Eh, monsieur, m'est-il permis de vous traiter encore avec une familiarité dont mon ignorance était l'excuse? Pendant longtemps, j'osais vous regarder comme un frère chéri. L'extrême différence de nos fortunes ne me frappait point. Dans ces temps heureux, rien n'arrêtait les témoignages de mon innocente affection. Je ne suis point changé. Ah, pourquoi vous obstinez-vous à penser que je le suis? Ce n'est pas vous, monsieur, c'est moi-même que je crains. Je suis jeune, je vous dois tout, je vous aime. Oui, monsieur, je vous aime, je le dis, je le répète avec plaisir. Je ne rougis pas de vous aimer. Le premier instant où vous parûtes à mes yeux fit naître cette tendresse que le temps a rendue si vive. Sentiment cher à mon cœur, le seul qui m'attache à la vie. Tant de bienfaits, si généreusement répandus sur moi, m'assuraient un sort paisible. Mais l'amour que vous m'inspiriez faisait mon bonheur, mon souverain bonheur. Penser sans cesse à vous, m'occuper du soin de conserver votre amitié, de mériter l'estime de mon respectable ami, vous voir quelquefois, lire dans vos yeux que ma présence excitait votre joie, c'était pour moi le bien suprême. Une félicité si grande est-elle à jamais détruite? Ne me la rendrez-vous point? Non, il n'est plus en votre pouvoir de me la rendre. Vous ne m'importunerez pas longtemps? Quelle cruelle expression! Je ne puis supporter la certitude de faire votre malheur. Elle pénètre mon âme, elle déchire mon cœur. En me retirant, en abandonnant les lieux où je vous voyais sans contrainte, j'ai suivi des conseils prudents. Mais je ne vous fuis point, je ne prétends pas élever une barrière entre vous et moi. Prête à quitter cet asile, si vous le voulez, je soumets ma conduite à votre décision. Si, pour sauver vos jours, il faut me rendre méprisable, renoncer à mes principes, à ma propre estime, peut-être à la vôtre, je ne balance point entre un intérêt si cher et mon seul intérêt. Ordonnez, monsieur, du destin d'une fille disposée, déterminée, à tout immoler à votre bonheur. Mais, avant d'accepter un si grand sacrifice, permettez-moi de remettre dans vos mains tous les dons que vous m'avez faits. Les garder, en jouir, ce serait laisser croire que vous m'aviez enrichi pour me perdre. Sauvons au moins votre honneur, une légère partie du mien. Qu'on ne m'impute jamais la bassesse d'avoir reçu le prix de mon innocence. À ces conditions, monsieur, la tendre, la malheureuse Ernestine tiendra la conduite que votre réponse lui prescrira. Ah, grand Dieu ! S'écria le marquis en finissant de lire. Ai-je pu porter cette charmante fille à m'écrire ainsi? Quelle étrange proposition! Mais que de bonté, de tendresse, de générosité dans cet abandon de ses principes d'elle-même! Aimable Ernestine, qui, moi, je t'avilirai, j'abuserai de ton amour, de ta noble confiance. Ah, tu n'as rien à craindre de ton amant, de ton ami, de ton reconnaissant ami. Périsse l'homme injuste et cruel qui ose fonder son bonheur sur la condescendance d'une douce, d'une sensible créature capable de s'oublier elle-même pour le rendre heureux. Monsieur de Clémangis se hâta de répondre à l'inquiète Ernestine. L'agitation de ses esprits, l'attendrissement de son cœur ne lui permirent pas de mettre beaucoup d'ordre dans sa lettre. Il la remerciait d'une preuve si extraordinaire de ses sentiments. Il s'en plaignait aussi, lui reprochait doucement de l'avoir soupçonné d'un dessein qu'il ne formait pas. « Ah, comment avez-vous pu croire, lui disait-il, que votre ami voulut être votre tyran ?» Il terminait sa lettre par des expressions tristes et vagues. Elle semblait annoncer sa visite pour le soir. Il promettait une confidence, elle expliquerait ce qu'il n'osait lui dire en ce moment, ce qu'il se trouvait malheureux, bien malheureux de devoir lui apprendre. Ernestine était avec Madame de Rancy quand on lui apporta la lettre de Monsieur de Clémangis. Elle la prit en tremblant, la tint longtemps sans oser l'ouvrir. Une pâleur mortelle se répandit sur son visage. « Voilà l'arrêt de mon destin, » dit-elle. « Oh, Madame de Rancy, si vous saviez, qu'ai-je fait? Que me dit-il? Je suis perdue !» Cette femme, ignorant le sujet de sa terreur, s'étonnait de la consternation où elle la voyait. Ernestine rompit enfin le cachet et, portant des regards timides sur ses caractères chéris, des larmes de joie inondèrent bientôt cette lettre consolante, elle la pressa contre son cœur, la baisa mille fois. « Oh, mon respectable ami, pardonne-moi » répétait-elle. « Non, je ne devais pas te soupçonner. » Découvrant alors à Madame de Rancy la cause de son effroi, elle fit passer dans l'âme de son amie une partie des mouvements qui affectaient la sienne. En relisant la lettre du marquis, Ernestine recommença à s'inquiéter. « Et que doit-il donc m'apprendre ? » demandait-elle à Madame de Rancy. « Il veut me quitter, peut-être, renoncer à me voir ? Tout m'annonce une triste séparation. Que signifient ces expressions ? Quand je vous disais, je ne vous importunerai plus, j'étais bien éloignée de vouloir élever dans votre esprit ces idées funestes où je vois trop qu'ils s'abandonnaient. J'ai cherché, j'ai fui l'occasion de vous dévoiler le sens de ces paroles. Hélas, ma chère Ernestine, quelle triste confidence ai-je à vous faire ? Quel sacrifice mon devoir exige ? Il ne m'est plus permis de vivre pour moi-même, il ne m'est plus permis d'espérer d'être heureux. « Ah, je vais le perdre !» s'écriait-elle. « Mon cœur me le dit. Et d'où vient ? Ne peut-il vivre heureux et me voir et m'aimer ? Comment un même sentiment produit-il de si différents effets ? Mon amour est un bonheur si grand pour moi. Faut-il que le sien trouble la douceur de sa vie ?» Elle attendit impatiemment l'heure où elle croyait recevoir la visite de M. de Clémangis. Le temps s'écoulait lentement au gré de ses désirs. Le jour finit et son inquiétude augmenta. Le lendemain, à son réveil, on lui présenta une lettre du marquis. Elle déchira l'enveloppe avec précipitation et, cherchant avidement la confirmation de ses craintes, elle la trouva dans ses paroles. Lettre de Monsieur de Clémangis. « Oh, ma chère Ernestine, après la preuve touchante que vous venez de me donner de vos sentiments, puis-je, sans expirer de douleur, vous annoncer mon départ et l'événement qui doit le suivre. Faut-il vous quitter, vous dire un éternel adieu ? Faut-il percer votre cœur du même trait dont le mien se sent déchiré ? Fille aimable, née pour le bonheur de ma vie, digne du sort le plus brillant, ah, que le mien ne dépend-il de moi ? Le devoir, la reconnaissance, des engagements pris depuis longtemps renversent toutes mes espérances. Mais en avais-je ? Comment me suis-je flattée ? Ah, fallait-il vous conduire à partager une passion inutile ? Que d'amertume, que de regrets se mêlent à des peines si vives ! Me pardonnerez-vous ? Ne me mépriserez-vous point ? Ne me haïrez-vous jamais ? Ma chère, ma tendre amie, daignez me rassurer sur mes craintes, dites-moi que vous me pardonnez. Ne me refusez pas une consolation si nécessaire à mon cœur affligé. Le malheur de ma vie est enfin déterminé. Mon oncle a levé tous les obstacles qui éloignaient encore mon mariage. Il me contraint, il me force d'aller rendre des soins à Mademoiselle de Saint-André. Dans une heure, je pars avec son père. Il me mène à une terre où la maréchale de Saint-André nous attend. Sa fille sort demain du couvent. On va nous présenter l'un à l'autre. On nous unira bientôt sans nous consulter, sans s'embarrasser si nos cœurs sont disposés à se donner. Quoi, ma chère Ernestine, je vais me lier à jamais. Et ce n'est point à vous. Je croyais jouir plus longtemps de ma liberté. On devait attendre la décision du Parlement. L'incertitude de mes droits sur une riche succession, sur d'immenses arrérages, retardait le consentement du maréchal de Saint-André. La libéralité de mon oncle me désole en ce moment. Une donation m'assure tous ses biens, je n'ai plus d'espoir. Vous prierai-je de m'oublier ? Non, oh non, je ne puis souhaiter d'être oublié de vous, je ne puis désirer de vous oublier. Vous serez toujours présente à mon idée, toujours chère à mon cœur. Je penserai sans cesse à vous, je vous écrirai, je vous entretiendrai de mon estime, de mon amitié et, malgré moi peut-être, de ma tendresse. Je ne vous la rappellerai point pour vous presser de la partager encore, mais pour vous prouver que le temps ne peut ni l'affaiblir ni l'éteindre. Vivez paisible, vivez heureuse, que le souvenir d'un sincère, d'un véritable, d'un constant ami vous arrache quelquefois un soupir, mais que ce soupir soit tendre et non pas douloureux. Je ne puis retenir mes larmes, elles s'échappent de mes yeux, elles effacent ce que j'écris. Oh, ma généreuse amie, vous en répandrez sans doute, puisse-t-elle n'être pas aussi amère que les miennes. Je vous aime, je vous adore, je vous fuis, je vous perds, je suis le plus infortuné de tous les hommes. » De quel mouvement cette lecture agita le cœur de la sensible Ernestine ? Elle l'interrompit 100 fois pour laisser un libre cours à ses pleurs, à ses soupirs, à ses gémissements. « Il part, disait-elle, il me fuit, je ne le verrai plus. Il va s'unir à l'heureuse épouse qu'on lui destine. Il me dit de vivre paisible, heureuse. Ah, comment serais-je paisible loin de lui, heureuse sans lui ?» Elle passa tout le jour à s'affliger, à se plaindre du marquis. « Quelle dureté ! S'écriait-elle. A-t-il pu partir sans me voir, sans me parler, sans mêler ses larmes avec les miennes ?» Elle pleurait, elle écrivait, déchirait ses lettres commencées, s'abîmait dans sa douleur, reprenait sa plume et la quittait encore. Son agitation, la violence de ses transports l'accablèrent enfin. Elle fut malade, abattue, languissante pendant plusieurs jours. Mais les lettres du marquis, les représentations de Madame de Rancy, le retour de Mademoiselle Duménil, ses soins, son amitié, ramenèrent un peu de calme dans son âme. Elle s'accoutuma à se dire, à se répéter, que jamais elle n'avait rien espéré. Elle cessa de se plaindre de son sort. Elle voulut s'y soumettre et chercha dans sa raison la force de supporter ses peines avec résignation. 2 mois s'écoulèrent, pendant lesquels le marquis de Clémangis écrivait régulièrement à son aimable amie. Il ne lui disait point si ses nœuds étaient serrés, elle n'osait le demander. Elle craignait de l'apprendre, mais elle devait bientôt être éclaircie du destin de M. de Clémangis et sentir par une triste expérience combien on éprouve de douleur pendant le cours de ces attachements trop tendres où le cœur se livre avec tant de plaisir qu'il lui paraisse la source d'un bonheur si vif et si constant. Une parente de Mademoiselle Duménil se mariait à la campagne, environ à 10 lieues de Paris. Elle épousait un homme fort riche. Comme il avait longtemps désiré l'heureux moment d'être à elle, cet amant comblé de joie voulait rendre ses noces brillantes et préparer des fêtes pour les célébrer. Henriette, invitée à partager les plaisirs qu'on se promettait de goûter dans des lieux consacrés à l'amusement, exigea de la complaisance d'Ernestine qu'elle l'accompagnât dans ce court et agréable voyage. Elle s'en défendit, mais elle céda enfin aux instances de son amie. Avant de partir, elle chargea Madame de Rancy de lui envoyer ses lettres par un exprès. Mais plusieurs jours s'écoulèrent sans qu'Ernestine reçût aucune nouvelle, ni d'elle ni du marquis. En menant son amie à la campagne, Mademoiselle Duménil n'avait pas songé que de toutes les dissipations, la moins capable de la distraire était le spectacle dont elle la rendait témoin. « On donne peut-être les mêmes fêtes chez le maréchal de Saint-André !» disait Ernestine en soupirant. Mais une joie si douce ne remplit pas le cœur du marquis. Il n'aime point, il ne jouit pas des plaisirs où se livrent ses heureux amants. Cependant, il ne m'écrit plus. Croyez-vous, demandait-elle à Henriette, qu'il cesse de m'écrire? Me privera-t-il de la seule consolation qui me reste? Ah, sans doute, il m'en privera. Il ne pensera plus à moi, il ne s'informera seulement pas si j'existe encore. N'importe, il me sera toujours cher. Mes sentiments pour lui m'occuperont sans cesse. Jamais, jamais je ne perdrai l'idée du marquis de Clémangis. Et si le temps peut faire que je songe à lui sans douleur, je suis bien sûre de n'y songer jamais sans intérêt. » Henriette s'efforçait d'adoucir ses chagrins, de calmer ses inquiétudes. Mais la situation d'Ernestine allait devenir si fâcheuse que les conseils et les soins de l'amitié ne pouvaient plus rien sur son cœur. Monsieur de Maugis, ami des maîtres de la maison, arriva le matin du jour où tout le monde se disposait à revenir à Paris. On lui reprocha de ne s'être point rendu à des invitations pressantes, on lui rappela sa promesse. Il répondit que l'événement, dont on devait être instruit, l'excusait assez. Tout le monde l'environnant alors, 10 personnes l'interrogèrent à la fois. « Quoi ? » dit-il d'un air surpris, « vous ignorez le malheur du comte de Saint-Servin, celui de mon frère, et l'exil du marquis de Clémangis ?» Ernestine entrait dans le salon. Ses paroles la glacèrent. Elle resta debout près de la porte, s'appuya contre un lambris et recueillit toutes les forces que lui laissait le saisissement de son cœur pour écouter M. de Maugis. « Oui, poursuivit-il, le comte de Saint-Servin est étroitement gardé, ses papiers sont enlevés, ses effets saisis. Mon frère avait sa confiance, on s'est assuré de lui. Un secret impénétrable dérobe la connaissance du crime qu'on leur suppose. » Un homme dont le génie et l'application rendaient l'administration si heureuse, dont le désintéressement est connu, dont l'affabilité gagnait tous les cœurs, est noirci par l'envie. Puisse-t-il confondre la calomnie et revoir à ses pieds ses vils accusateurs ? Que je plains votre frère, dit alors le chevalier d'Elmont, que je plains l'aimable marquis de Clémangis, il allait épouser mademoiselle de Saint-André, ce mariage ne se fera plus. « Non, assurément, reprit M. de Maugis, il a reçu cette accablante nouvelle et l'ordre d'aller à Clémangis 2 heures avant la signature des articles et s'est hâté de prévenir le maréchal en rompant lui-même leurs mutuels engagements. « Eh, mon Dieu !» dit encore le chevalier d'Elmont, « une circonstance bien cruelle fait que la disgrâce de son oncle devient un double malheur pour lui. Son procès ne se juge-t-il pas incessamment ?»« Oui, répondit M. de Maugis, et tout Paris croit qu'il le perdra. » Pendant ces discours, Henriette s'approcha insensiblement d'Ernestine et, passant un bras autour d'elle, l'entraîna hors du salon, elle l'aida à marcher et la conduisit dans sa chambre. Pâle, froide, inanimée, Ernestine semblait insensible à cette nouvelle terrible et imprévue. Elle promenait autour d'elle des regards stupides, elle ne pouvait parler, elle ne pouvait respirer. Mademoiselle Duménil l'invitait en vain à répandre des larmes en la baignant des siennes. Le serrement de son cœur ne lui permettait pas d'en verser. Fixant enfin les yeux sur son amie, elle la regarda longtemps, élevant au ciel ses mains faibles et tremblantes. « Que ne suis-je morte » dit-elle. « Ah, que ne suis-je morte avant d'avoir appris que M. de Clémangis est malheureux !» Ses pleurs coulant alors avec abondance soulagèrent un peu l'oppression de son âme, rappelèrent ses esprits. Mais quelle agitation, quels cris de douleur succédèrent à son accablement. « Exilé, ruiné, perdu » répétait-elle, « lui, le marquis de Clémangis !» Paraissant tout à coup se calmer, elle essuya ses pleurs, prit les mains d'Henriette et, la considérant un moment, baissant les yeux, les relevant sur elle, poussant de profonds soupirs, elle semblait hésiter à lui découvrir sa pensée. « Je vous afflige, lui dit-elle. Hélas, je vais peut-être vous révolter. Mais au nom de notre amitié, ne vous opposez point à mes desseins. J'ai un projet, ne le combattez par aucune raison, par aucun discours. Oh, ma chère Henriette, je n'abandonnerai point M. de Clémangis. Il est exilé, son mariage est rompu, sa fortune détruite, il va perdre le reste de ses espérances. » Il est affligé, malheureux. Je veux partir, aller le trouver. Ma vue sera peut-être un adoucissement à ses peines. Si je ne puis le consoler, je partagerai ses maux. Je veux gémir, souffrir, mourir avec lui. Ne me dites rien, non, ne me dites rien. Ne me parlez ni du monde, ni de ses cruelles bienséances. Je les rejette si la dureté les accompagne. Est-il des lois plus saintes que celles de l'amitié ? Des devoirs plus sacrés que ceux de la reconnaissance ? À qui dois-je des égards ? Je ne tiens à personne. Si ma démarche est une faute, j'en rougirai seule. Je veux dénaturer tout ce que je possède, je veux rendre en secret à M. de Clémangis tous les biens que j'ai reçus de lui. Ah, pourrais-je en jouir à présent ? Heureuse aux yeux des autres, ingrate aux miens, comment supporterai-je la vie ? Mademoiselle Duménil pensait trop noblement pour ne pas approuver une partie du dessein de son amie. Et dans celle qui lui paraissait mériter plus de considération, elle la voyait si attachée à ses propres idées qu'entreprendre de la détourner d'aller à Clémangis, c'était l'affliger beaucoup sans pouvoir s'assurer de changer sa résolution. Elle ne lui dit donc rien, la laissa maîtresse d'interpréter son silence et toutes deux se hâtèrent de revenir à Paris. Pendant la route, Ernestine se souvint d'un honnête vieillard qui prenait soin des affaires de M. de Clémangis et lui était extrêmement attaché. Il s'appelait Lefranc. Pendant son séjour chez M. Duménil, elle le voyait souvent avec lui. Le marquis avait employé le peintre sur la parole de M. Lefranc, qui vantait sans cesse son talent. Elle se rappela qu'il logeait dans le voisinage et son premier soin en arrivant à Montmartre, où elle voulut descendre, fut d'inviter cet homme, par un billet pressant, à venir lui parler le lendemain de grand matin. Une affaire importante, où il pouvait l'obliger, l'engager, lui disait-elle, à l'entretenir et à le consulter. Il se rendit à l'abbaye à l'heure indiquée. La présence d'un homme qui aimait M. de Clémangis, qui tenait à lui, excita la plus vive émotion dans le cœur d'Ernestine. Elle voulut s'expliquer, commença à parler, mais ses pleurs la forcèrent de s'arrêter. Le bon vieillard, charmé de revoir la belle élève de son ancienne amie, l'assurait de son empressement à la servir et lui faisait mille protestations de suivre exactement les ordres qu'elle allait lui donner. Il n'ignorait pas combien elle était chère au marquis et pensait lui devoir les mêmes égards qu'il aurait eus pour la sœur de M. de Clémangis. Ernestine accepta ses offres de service, elle lui ouvrit son cœur, s'étendit sur les bontés du marquis, sur la reconnaissance qu'elle en conserverait toujours, et remettant entre les mains de M. Lefranc ses bijoux, ses pierreries et plusieurs effets commerçables, elle le chargea de les vendre et d'en faire toucher l'argent à M. de Clémangis sans jamais lui découvrir d'où il venait. Ensuite, elle le pria de s'arranger avec Mademoiselle Duménil pour emprunter sur sa terre afin de grossir la somme et lui recommanda la diligence et le secret. M. Lefranc savait qu'Ernestine devait sa fortune à M. de Clémangis, mais il ne savait point de quels moyens il s'était servi en l'obligeant. Son billet lui persuadait que cette fortune dépendait du marquis, et son premier mouvement, en la voyant si affligée, avait été de penser que, dans la circonstance présente, elle voulait prendre des mesures avec lui sur ses intérêts. Une surprise mêlée d'admiration le rendit muet pendant quelques instants. Il regardait Ernestine, portait les yeux sur le dépôt qu'elle lui confiait, la regardait encore, semblait douter s'il ne se trompait point. « Hésitez-vous à me servir ?» lui demanda-t-elle d'un air inquiet. « Non, mademoiselle, non, lui dit-il, je remplirai vos désirs, je les surpasserai peut-être. Soyez tranquille, je m'acquitterai fidèlement de l'emploi dont vous daignez me charger. Monsieur le marquis a bien placé les affections de son cœur. Je souhaite que le ciel lui rende le comté de Saint-Servin, sa fortune, sa santé, et lui conserve une amie aussi tendre, aussi respectable que vous. » « Sa santé ? » interrompit vivement Ernestine. « Ah, mon Dieu, serait-il malade ?»« Ne vous effrayez pas, mademoiselle, reprit M. Lefranc. Il l'a été, il a beaucoup été, mais il se trouve mieux. J'espère le voir avant peu. Si le succès ne trompe point mon attente, je serai à Clémangis avant la fin de la semaine. Calmez-vous, mademoiselle, je ne partirai pas sans envoyer prendre vos ordres. Je vous écrirai peut-être ce que la crainte d'élever de fausses espérances dans votre cœur m'oblige de vous taire à présent. » Et, achevant ces mots, il la salua respectueusement et prit congé d'elle. Quelle nouvelle amertume pénétra l'âme d'Ernestine. Le marquis de Clémangis malheureux, le marquis de Clémangis malade, en danger peut-être. Comment soutenir cette cruelle idée ? Si le silence d'Henriette montrait qu'elle condamnait sa démarche, si la crainte de déplaire à cette véritable amie mêlait un peu d'indécision à ses desseins, l'état du marquis l'emporta sur toutes les considérations qui pouvaient l'arrêter encore. Elle écrivit à Mademoiselle Duménil. Sa lettre détermina Henriette à lui prêter une chaise, un de ses gens pour courir devant elle et à lui envoyer des chevaux de poste comme elle l'empressait. À midi, Madame de Rancy et elle partirent. Que d'impatience pendant la route, que de soupirs, que de larmes. « Ah, si je ne le voyais plus, disait-elle à Madame de Rancy, si le ciel me privait de lui, si j'étais condamnée à pleurer sa mort. Ah, pourrais-je vivre et me dire et me répéter, il n'est plus ?» Une nuit passée à gémir, tant de troubles, d'agitation et la fatigue du voyage épuisèrent ses forces. Dès le second jour de marche, elle fut obligée de s'arrêter dans un petit village. Elle ne pouvait supporter le mouvement de la chaise, elle s'évanouissait à tout moment. Madame de Rancy obtint enfin de sa raison, de sa complaisance, de son amitié, qu'elle prendrait de la nourriture et du repos. Un sommeil long et paisible la rafraîchit, la mit en état de continuer sa route le lendemain et d'arriver à Clémangise le soir du second jour. Plusieurs des gens du marquis connaissaient Ernestine. Les premiers qui l'aperçoivent courent l'annoncer à leur maître. Il ne peut les croire. Elle entre, il la voit, il doute encore si c'est elle. Elle avance en tremblant, tombe à genoux devant son lit, reçoit la main qu'il lui tend, la serre faiblement dans les siennes, la baise, l'inonde de ses pleurs. « Est-ce elle ? Est-ce Ernestine ?» répétait le marquis en l'obligeant à se lever, à s'asseoir près de lui. « Quoi ? Ma charmante amie daigne me chercher ? Chère Ernestine, quelle douce, quelle agréable surprise ! Ah, je n'attendais point cette faveur précieuse !» « Et pourquoi, monsieur, pourquoi ne l'attendiez-vous pas ? » lui demanda-t-elle du ton le plus touchant. « Me mettiez-vous au rang de ces amis que la disgrâce éloigne ? Me croyez-vous insensible, ingrate ? Avez-vous oublié que vous êtes tout pour moi dans l'univers ? Ah, si ma présence, si mes soins, si les plus fortes preuves de ma tendresse peuvent adoucir vos peines ? Parlez, monsieur, parlez, je ne vous quitte plus. Tous les instants de ma vie seront heureux, s'il en est un seul dans le jour où ma vue, où mon empressement à vous plaire, dissipe le souvenir de vos pertes, porte un rayon de joie dans votre âme. » Le visage de M. de Clémangis se couvrit de rougeur. Il prit les mains d'Ernestine, il les arrosa de larmes brûlantes. « Comment » s'écria-t-il, « ai-je immolé le plus grand bonheur à de vains égards, mes plus ardents désirs à de bizarres préjugés ? Est-ce Ernestine, est-ce l'aimable fille que je sacrifiais à la vie d'ambition, au fol orgueil qui conserve pour moi des sentiments si tendres ? Elle cherche en malheureux un proscrit peut-être. Sa généreuse compassion la tire dans ce désert, elle vient me consoler. Ah, je sens déjà moins des peines qu'elle daigne partager. Tout cède à présent dans mon cœur au regret de ne pouvoir reconnaître ses bontés. » Ernestine allait parler quand des voix confuses se firent entendre. On ouvrit brusquement. Monsieur Lefranc, plutôt porté qu'introduit par les gens du marquis, entra en criant « Votre procès est gagné tout d'une voix, monsieur. On parle au comte de Saint-Servin, ses accusateurs sont arrêtés. Je n'ai pas voulu qu'un autre vous apportât ces heureuses nouvelles. » « Mon oncle justifié, mon procès gagné, s'écria le marquis. « Ah, je pourrais donc suivre les inspirations de mon cœur, payer tant d'amour, de noblesse, de vertu. « Viens, ma chère Ernestine, viens !» répéta-t-il, transporté de plaisir. « Viens dans les bras de ton époux. » « Mes enfants, dit-il à ces gens qui versaient des larmes de joie, « mes chers enfants, voilà votre maîtresse. » Et tendant la main à M. Lefranc, « Et vous, mon zélé, mon honnête ami, soyez le premier à féliciter la marquise de Clémangis. » Des cris d'allégresse s'élevèrent alors dans la chambre. Ernestine était aimée, elle était respectée, elle méritait le bonheur dont elle allait jouir. Madame de Rancy levait les mains au ciel, lui rendait grâce, embrassait Ernestine, prononçait de tendres bénédictions sur le marquis et sur elle. Monsieur Lefranc, trahissant le secret qu'on lui avait confié, racontait à Monsieur de Clémangis l'action généreuse d'Ernestine. Elle seule, craignant encore pour des jours si chers, n'osait se livrer à la joie. On la rassura, le marquis était faible, mais il était convalescent et le plaisir allait lui rendre la santé. Mais épargnons au lecteur, fatigué peut-être, des détails plus longs qu'intéressants. Il peut aisément se peindre le bonheur de deux amants si tendres. Le comte de Saint-Servin, vengé de ses ennemis, rentra dans les fonctions de son ministère. Il pardonna à son neveu un mariage qui le rendait heureux. Henriette partagea la félicité de son ami. Madame de Rancy retourna dans sa retraite, où les soins attentifs de Madame de Clémangis prévinrent ses désirs. Et moi, qui n'ai plus rien à dire de cette douce et sensible Ernestine, je vais peut-être m'occuper des inquiétudes et des embarras d'une autre.